du programme. Alors, c'est un exposé que j'ai déjà fait au mois de mai. Donc là aussi, ça pompe un peu du public, parce que les gens qui m'ont écouté au mois de mai, bon, n'ont pas d'intérêt à revenir écouter ce que je raconte. Mais ça permet d'illustrer un petit peu le contexte de la programmation qu'on a faite. Donc on l'a faite, je rappelle que ce programme, il a été élaboré entre décembre et mars 2000, décembre 2020, mars 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'est passé des choses entre ces deux dates-là, un peu compliquées. Donc faire la programmation alors que tout le monde est bouclé à la maison, c'est pas toujours très facile. Bon, on y est arrivé, on a réussi à faire à composer la plaquette programme et on a réussi à la faire imprimer juste au moment où on faisait la première présentation au mois de mai. Donc on y va. Donc je rappelle, enfin ça c'est historique, qu'on a pu, malgré les conditions très difficiles, faire à peu près les deux tiers de notre programme de l'année passée grâce aux visioconférences. Nous sommes les seuls qui avons fait ça avec enregistrement sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Les seuls. La moitié des associations ont arrêté complètement leurs activités. Les autres ont fait des conférences en visio, mais en direct, c'est-à-dire il n'y avait pas d'enregistrement. Et donc, les gens qui ont loupé les rendez-vous, eh bien évidemment, n'ont pas écouté les conférences. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est, puisqu'on a acquis une certaine expérience dans la maîtrise des visioconférences, on va essayer de faire quelques fois des visioconférences ici. C'est pas si simple que ça, puisque bien sûr il faut avoir l'accès internet avec un débit suffisant. Je rappelle qu'il n'y a pas de réseau internet ici, il faut qu'on amène le matériel pour le faire, et deuxièmement il faut un certain nombre d'accessoires, je ne rentre pas dans le détail technique, qui permettent d'avoir une prise de son qui soit de qualité. En clair, piquer le son sur le micro de tête comme ça. Alors que d'habitude dans les visios, vous savez qu'on voit la télévision, eh bien c'est le micro du PC qui sert pour prendre le son. Et là, quand vous faites, on a fait deux fois l'expérience ici, c'est absolument horrible, on ne comprend rien. La réverbération de la salle empêche toute intelligibilité du discours. Donc là, on a un petit accessoire qui permet de ne prendre uniquement que le son du micro de tête. Alors, quels sont les grands thèmes de l'année qui vient, là? Je rappelle que nous essayons tous les ans d'avoir des thèmes un petit peu fédérateurs, c'est-à-dire que différents conférenciers vont faire des exposés qui rentrent dans ces thèmes. Le grand thème de l'année prochaine, ce sera le colonialisme. Alors, on a eu l'occasion, depuis 10 ans, de faire beaucoup d'événementiels dans le colonialisme, c'est-à-dire d'expliquer toute l'histoire de la colonisation dans tout le monde, avec tous les pays, c'est très compliqué, hein, l'impérialisme, etc., etc. Par contre, les ressorts, j'allais dire, idéologiques et sociologiques du colonialisme, on les a seulement survolés, donc on va essayer cette année d'essayer de comprendre pourquoi l'Occident, enfin l'Europe, s'est mise à coloniser l'ensemble du monde. On va parler du saint-simonisme. Je ferai en particulier. Alors, le saint-simonisme, c'est un mot un peu magique. Tout le monde sait que c'est un peu bizarre. Mais ça a duré, c'est au début du 19e siècle. On a une idée très fumeuse de ce qu'est le saint-simonisme, enfin, pour la plupart des gens. Donc on va essayer de dissiper un peu la fumée. Et on verra que ce courant de pensée très exotique, on va dire ça comme ça, a eu un impact fondamental sur la construction de la France depuis... on va dire les années 1830. Et aujourd'hui, on a encore des traces des ressorts du saint-simonisme, alors qu'il n'y a plus de saint-simoniens depuis fort longtemps. On fait de l'événementiel sur la guerre, puisque on avait bien balayé la première guerre, maintenant on a démarré la seconde guerre, donc avec les prémices et les événements jusqu'aux années, et donc on va parler de la phase victorieuse de l'Axe, c'est-à-dire jusqu'à la mi-42, pourquoi les nazis ont réussi à balayer l'ensemble de leurs ennemis. Évidemment, on ne peut pas échapper à l'environnement, et on en parle du matin jusqu'au soir dans tous les médias, donc on ne va pas déroger la chose, donc on va essayer d'avoir des analyses un petit peu avec du recul sur ces thèmes environnementaux. On parlera également des révoltes sociales, on est tout à fait, les deux années qui viennent de se passer sont des bons exemples, donc on est sans préjuger de ce qui se passera ensuite. L'instabilité générale du monde, du point de vue géopolitique, et pour la première fois, on va essayer d'attaquer vraiment comme une thématique centrale l'évolution. On a fait du picorage dans les années passées sur l'évolution, mais là, on a réussi à débaucher ou embaucher quelqu'un, une sommité du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc on a une touche importante au Muséum d'Histoire Naturelle et on espère qu'en tirant sur le fil, on va pouvoir avoir des conférenciers de haute qualité qui viennent nous parler de ce sujet-là, qui est lui aussi largement méconnu. Donc maintenant, nous balayons très rapidement le programme. Donc... je rappelle ça tous les ans comme une litanie. L'histoire de l'art, c'est quand même le socle de notre programmation. Bon an, mal an, à peu près un quart de nos conférences tournent autour de l'histoire de l'art. Histoire de l'art très large. Hein. Et j'inclus le théâtre, j'inclus la littérature, j'inclus le cinéma, j'inclus les arts plastiques, etc., etc. Alors, nous allons commencer par le Louvre et ses collections actuelles. Vous savez que le Louvre reste le plus grand musée du monde. Et il l'a été dès sa fondation sous la période napoléonienne. Mais aujourd'hui, il est toujours le plus grand musée du monde, aussi bien en taille qu'en volume de ses collections et au nombre de visiteurs. Donc, M. Curnier-Laroche va nous parler de tout ça lors de l'état actuel du Louvre. Une conférence sur le marché de l'art. Vous voyez beaucoup d'articles dans le journal en ce moment, depuis plusieurs années, qui évoquent des sommes faramineuses qui sont attribuées à des œuvres picturales diverses et variées. Et il y a un marché de l'art. Le marché de l'art a toujours existé. Mais aujourd'hui, il y a des liquidités absolument fantastiques dans le monde qui fait que l'aspect spéculatif du marché de l'art a atteint des proportions inégalées depuis que la race humaine existe. Donc, Madame Françoise Raslovlev nous parlera des mécanismes économiques et surtout psychologiques du marché de l'art. Alors, sur l'architecture, notre ami Cyril Brûlé, qui est architecte, qui nous visite déjà depuis 5 ou 6 ans, nous fait un cycle sur l'architecture moderne, c'est-à-dire le début du XXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Évidemment, pour la première fois, on va vraiment parler de Le Corbusier, Corbu pour les intimes, comme dit Cyril Brûlé, avec sa grande gueule. Il a imposé un petit peu un style d'architecture qui est tout à fait significatif et tous les architectes qu'il a évoqués dans ses conférences passées y font allusion à un moment ou à un autre. Et puis pour l'architecture, on ne peut pas zapper la cathédrale Saint-Vincent puisque le cloître, comme vous le savez tous, enfin réouvert, rénové, vous l'avez tous vu, il est magnifique. Et donc, c'est peut-être pas inutile de retracer l'histoire de ce monument religieux, qui est, une fois de plus, très méconnu, même pour les Chalonnais. Et c'est Mathieu Pinette qui nous le fera. Alors je rappelle, je fais une petite incidente, comme je l'ai mis dans la communication que je vous ai envoyée, il y aura pour la première fois une vente d'ouvrages au cloître, donc pendant les journées du patrimoine, le 18 et 19, sous le cloître. Et donc nous aurons un stand dans cette vente et nous proposerons un certain nombre de nos ouvrages, puisque certains ne le savent pas, surtout les nouveaux, nous éditons des livres. Nous en sommes à 26 pour le moment, depuis une quinzaine d'années. On n'en fait pas beaucoup, mais des livres d'histoire locale, pour faire l'essentiel. Voilà. Donc venez nous visiter les 18 ou 19. Alors, on va passer en revue. Là, dans l'histoire de l'art, on travaille, pour les habitués de l'UTB, avec nos conférenciers vedettes, si vous voulez, qui nous proposent des sujets très variés. Donc, une de nos premières vedettes, c'est Damien Capellazzi, qui vient de Lyon, qui est très brillant et très médiatique, si vous voulez, qui va nous faire deux conférences. L'essor de la peinture à l'huile. Je fais un petit incident. La peinture à l'huile a été inventée par les Flamands. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de la peinture à l'huile? C'est que ça permet de faire des retouches. Après, chose qu'on ne savait pas faire avec, par exemple, la fresque, où il ne fallait pas se rater. Donc, la peinture à l'huile, on peut recouvrir à l'infini. La peinture est déjà existante. Donc ça a été une avancée majeure dans les techniques de peinture. Et comme illustration de cette technique, eh bien, bien sûr, la cour de Bourgogne, et c'est en miroir, c'est le cas de le dire, de l'exposition qui est encore en cours au musée de Nons. Alors si vous ne l'avez pas visitée, je vous encourage vivement à aller le visiter, elle va s'arrêter aux journées du patrimoine. Donc, qui évoque les commandes artistiques des grands dignitaires de la cour de Bourgogne, les Nicolas Rollin et consorts. Voilà. Claudie Roger, donc, nous fera quelques conférences. Alors, Gustave Courbet, c'est quelque chose qui était déjà préparé, qui a été reporté deux fois. Donc, tout le monde connaît Courbet. Et à lui seul, on peut faire au moins 10 conférences sur le personnage, aussi bien le personnage que sur son œuvre, qui est tout à fait originale. Et puis, la thématique qu'on a choisie cette année, c'est de parler des peintres animaliers. C'est une mode qui est apparue à la fin du 19e, avec en particulier Rosa Bonheur, qui était... fan de la peinture des animaux de la ferme, et en particulier des vaches. Il y a beaucoup de vaches par Rosa Bonheur. Et ça plaisait beaucoup à l'époque. Ensuite, Roger Courreau, qui est plutôt spécialisé dans l'art contemporain. Donc on va parler de Sophie Kahl, dont vous voyez la photo, qui est une artiste très originale, mais surtout de l'art africain contemporain. On oublie souvent maintenant que les pays qui ne sont pas européens ont une créativité, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, une créativité, mais que nous ne connaissons pas dans les pays occidentaux. Il y a toujours un peu un ostracisme psychologique et intellectuel vis-à-vis des cultures qui ne sont pas européennes. En histoire de l'art, nous parlerons de l'abstraction lyrique. On avait déjà eu une conférence sur ce sujet, mais qui était centrée sur Frédéric Debré. Et là, on aura une conférence beaucoup plus générale. L'abstraction lyrique, c'est, vous voyez, des choses abstraites, mais qui sont souvent très nuageuses, on va dire, comme au niveau de leur aspect. Et également le land art. Alors là, c'est une tendance très moderne de l'art qui consiste à faire des objets d'art avec des dans la nature, si vous voulez. Et on a un bon exemple en ce moment, puisque vous avez vu que Christo, qui est décédé maintenant, sa fondation va empaqueter l'Arc de Triomphe à Paris dans une toile, comme il l'a fait sur beaucoup de monuments dans le monde. Donc, Annick Spee va nous parler de l'image numérique et le web art. Alors, il n'y a pas de doute que les outils informatiques permettent aujourd'hui de faire des choses qui étaient absolument impensables avec des moyens traditionnels et manuels. Donc, d'une part, on peut bien sûr utiliser l'informatique pour faire ce genre de choses, mais également pour le faire connaître, et évidemment, maintenant, on a l'outil magique qui est Internet. Donc, elle développera cette thématique. Mathieu Pinette va nous parler de sculpture. C'est un sujet qui est toujours un petit peu occulté par la peinture. Donc, et je dois rendre hommage à Mathieu Pinette sur le fait qu'il est toujours soucieux de remettre un petit peu la sculpture en vedette. Donc, il y a quelques exemples, et en particulier les femmes sculptrices, et qui se sont bien développées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, évidemment. Vous reconnaissez Camille Claudel et Rodin, son copain. Et enfin, Claudie Roger nous parlera. Alors ça, chaque fois que vous voyez le petit panneau avec le point d'exclamation, en fait, ce sont des conférences qui étaient programmées l'année dernière ou même l'année d'avant, qui n'ont pas pu se faire, étant donné les événements qu'on a reprises, si vous voulez, dans le programme de cette année. Donc Man Ray, c'est la photographie surréaliste, pour faire court. Alors, un nouveau conférencier que nous ne connaissons pas, disons, on a fait tout par les moyens modernes de communication, donc Jean-Jacques Astruc, qui nous a proposé de parler de Leonard Cohen, qui a un répertoire de chansons absolument original et qui mérite d'être connu. Bien sûr, on écoutera des extraits de ses œuvres. Alors, voilà Joël Farinck, donc en musique. On a toujours une composante assez importante autour de la musicologie. Donc, Jermaine Taillefer et le groupe des Six, donc Darius Milhaud et compagnie. Donc, vous voyez une photo du groupe des Six et L'Enfer et le Paradis, qui est une des productions de ce groupe des Six. Une autre conférence qui a été reportée, alors, c'est le théorbe. Vous voyez ce qu'est un théorbe, c'est un grand luth, si vous voulez, hein, très compliqué. Et il se trouve que le régisseur du conservatoire à Châlons, Jean-Luc Fevrat, qu'on connaît bien, puisqu'on travaille avec lui depuis au moins 15 ans, joue de cet instrument. Et il va nous, bien sûr, nous le présenter dans son contexte historique et musical. Et il nous jouera des morceaux de théorbe, voilà, en solo. Alors, ces instruments de musique très sophistiqués, très beaux esthétiquement, ont complètement disparu des orchestres, tout simplement parce que comme le luth ou des choses comme ça, la puissance sonore de ces instruments était insuffisante pour être audible dans des orchestres polyphoniques. Et donc, la composition actuelle des grands orchestres a fait qu'elle a tué tous les instruments qui sonnent pas fort. Et le seul qui est un peu resté, mais il faut que les autres s'arrêtent, c'est la harpe qui subsiste dans les orchestres symphoniques. Alors, notre ami Hubert Humeau, qui nous a régalé avec des conférences sur l'opéra, la chanson, etc., on a quand même réussi à nous tenir ici pendant trois quarts d'heure pendant une conférence alors qu'il y avait une panne de courant. Et on n'a pas arrêté la conférence, on a fait la conférence dans le noir jusqu'au bout. Vous voyez qu'il est bon. Et à la fin, il était prévu qu'on chante le solo de Figaro. Donc c'est un chanteur du conservatoire qui devait venir. Et l'électricité n'était toujours pas rétablie. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il va venir, tant pis, il a pas besoin de, il connaît le truc par cœur, il le fera a cappella, sans musique, puisque pour avoir la musique, il y avait un synthétiseur, là, et ben, évidemment, sans courant, on ne peut pas jouer de la musique. Et donc, je vais chanter a cappella. Et le gars arrive, à la fin de la conférence, on a vu quand même, la porte s'est ouverte, et je vous le donne en mille, le chanteur était noir. Ouais, vraiment, et un coup de peau a fait que au bout de 2 ou 3 minutes l'électricité est revenue et il nous a refait son solo avec de la musique 3 fois, et alors là la salle était complètement en délire. Ça existe à l'UTB des salles en délire, et là tout le quartier a dû nous entendre, ça hurlait, hein, voilà, parce que c'était bon, original. Couleur et musique, Bernard Valeur. Alors Bernard Valeur, c'est un physico-chimiste qui était professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce thème ? Ben, il se trouve que Monsieur Valeur, en dehors de ses compétences professionnelles, il est musicien amateur. Et il a voulu nous proposer ce sujet qui est original, on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt, en disant les relations qu'on peut imaginer entre les couleurs et la musique. Alors je suis incapable de deviner ce qu'il va nous dire, mais je peux vous garantir que c'est un excellent conférencier et qu'il va proposer quelque chose d'intéressant. Alors, traditionnellement, nous avons donc un partenariat avec le conservatoire. Alors là, on n'a pas mis les œufs, tout simplement, parce que le pauvre conservatoire, il est comme nous, sa programmation, elle n'est pas faite, ou elle était en train de se faire. Donc au moment où on a élaboré le programme, eh bien, on dit, ben, on va faire comme toutes les années, une conférence traditionnelle avec Stéphane Varnet. Stéphane Varnet, c'est le responsable de la programmation musicale au conservatoire, et qui va nous disséquer une œuvre ou un auteur. Il le fait très bien. On a traditionnellement, donc là, il y a des concerts le samedi après-midi et le samedi soir, et quand c'est un quatuor ou un orchestre qui est invité pour ces concerts, eh bien, le conservatoire nous propose le vendredi à 18h de faire une conférence-concert. C'est-à-dire que c'est comme une masterclass, si vous voulez. Et donc, Stéphane Varnet, pardon, ça se passe à l'auditorium du conservatoire, Stéphane Varnet, anime cette conférence-concert et demande à l'orchestre ou au quatuor de jouer des passages de 3 ou 4 minutes et après il les commente. Et puis on repasse et puis on analyse un petit peu l'écriture musicale. Donc c'est passionnant et ça fait un petit peu de la pub pour le concert de... disons du samedi, pour que les gens, bien sûr, viennent y assister. L'histoire du théâtre. Donc les deux sujets que vous voyez là, bien, c'était programmé l'année dernière. Donc le théâtre polonais, qui est totalement inconnu, donc c'est pour ça qu'on l'a mis, pour le faire découvrir. Et puis Antoine Vitesse, qui est un metteur en scène de théâtre, qui est bien connu. Voilà pour le bloc histoire de l'art, qui est déjà bien fournie. Ensuite, l'histoire, c'est le deuxième bloc, si vous voulez, qui est à peu près la même taille que l'histoire de l'art. Et vous voyez les thématiques. On, on passe de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, bien sûr, contemporaine. Alors, on n'a pas pu s'empêcher d'accepter, alors c'est pas nous qui avons inventé ce thème-là, mais c'est Monique Roux qui nous l'a proposé, le complot et le complotisme en histoire. On pense souvent que c'est un phénomène récent avec Internet et tout ce qui se raconte là-dessus. Ben non, le complot et le complotisme existent depuis le début des âges et on essaiera de replacer ça dans le contexte un petit peu sur le long terme. Qu'est-ce qui rend le complotisme redoutable dans la période actuelle? C'est l'efficacité redoutable des moyens modernes de communication, chose qui n'existait pas dans les périodes antérieures. Alors, l'histoire du coton. Alors ça, je le cite parce que M. Jurzak est un de nos nouveaux adhérents depuis 2 ans, là, et... C'est un physicien, enseignant à la fac, mais il adore faire des conférences sur des sujets qui sont complètement en dehors de son domaine de compétences professionnelles. Et donc l'histoire du coton, je pense que c'est un sujet passionnant parce que une fois de plus, c'est mal connu ou méconnu. Et cette histoire de coton, ça a des conséquences géopolitiques tout à fait. Je rappelle que il y a un auteur, le nom m'échappe là pour le moment, donc le conseiller de François Mitterrand a fait un bouquin sur l'histoire du coton. Alors, en histoire antique, on va, comme je vous l'ai dit, on aime bien remonter loin dans l'Antiquité et on nous a proposé, c'est une nouvelle conférencière, le monde minoéen. Alors, minoéen, c'est la Crète. Hein, et on sait moins que en Crète, il y a une civilisation brillantissime. Donc, je vous cite les dates, 1900 avant Jésus-Christ. Donc, c'est avant la civilisation... la civilisation grecque classique, elle a explosé le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est 14 siècles avant la civilisation grecque. Et ça, c'est sorti de nulle part. On ne sait pas bien quelle est l'origine et on ne sait pas bien pourquoi ça a disparu. Donc c'est pas inintéressant. Donc si vous avez l'occasion d'aller en Crète, je vous incite vivement à le faire parce que c'est absolument magnifique et les restes archéologiques, en particulier le musée archéologique d'Héraclion, c'est un des plus beaux musées que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Et ça, c'est pas si connu que ça. Hein, voilà. Et la Crète, c'est à 2 heures d'avion de la France. Hein. Ensuite, Flandre et Bourgogne, reflets et croisés. Donc, à nouveau, ce sera un éclairage complémentaire à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée de Nantes. Donc, bien comprendre les mécanismes essentiellement économiques qui ont permis l'éclosion de ces grands peintres flamands à cette époque-là, puisque quand vous avez de belles œuvres d'art, derrière tout ça, il faut 2 choses. Il faut des commanditaires, c'est l'objet de l'exposition au musée de Nantes, mais il faut également de l'argent. Et de l'argent, à cette époque-là, il y en avait. Donc ça a permis de faire ces magnifiques chefs-d'œuvre que vous connaissez tous. Alors, on arrive sur la colonisation, et donc une première fresque en 3 parties par M. Vion-Delphin, qui aime bien faire ce type de fresque historique sur une grande période de temps. Donc, l'émergence des grandes routes maritimes, les grandes compagnies de commerce, donc la Compagnie des Indes et de tous les pays, les compagnies des Indes, et enfin... quels sont les produits qu'on allait chercher et quels étaient leur impact et leur importance dans l'économie européenne. Puisque pour qu'il y ait colonisation, il faut que les commanditaires aient des envies, donc des épices en termes génériques, et des moyens pour financer les expéditions. L'événementiel sur 39-42, donc l'opération Barbarossa, et puis la partie pacifique. Donc, on va parler, bien sûr, ça se terminera à Midway, puisque c'est la première fois où les Américains ont repris un peu le dessus sur les Japonais. Mais on essaiera de comprendre pourquoi les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. En général, on ne l'explique pas. On dit, ah ben tiens, c'est bizarre, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Alors donc, on essaiera de remonter jusqu'au début des années 30 pour expliquer tout l'engrenage diabolique qui a conduit à la guerre côté Pacifique. Et là, évidemment, 2021, on ne peut pas y échapper. Napo est incontournable. Et donc, on a toujours évité ici de faire de l'événementiel sur la période napoléonienne. On a été gavé de ces choses-là dans notre période scolaire. Les batailles, la famille et tout, bon... c'est compliqué, ça n'apporte pas grand-chose puisque la documentation est très accessible dans toutes vos bibliothèques et dans tout Internet. Par contre, c'est pas inutile d'essayer de comprendre les ressorts profonds de ce personnage complètement extraordinaire. Donc, on commence par sa personnalité, ensuite ses succès et ses erreurs. Tout le monde sait qu'il a fait des erreurs puisqu'il a fini par chuter. Voilà. Donc on essaiera de comprendre tous ces mécanismes sans tomber ni dans la détestation ni dans l'idolâtrie qui sont souvent deux péchés dans l'analyse du phénomène Napoléon. Bien sûr, sur le colonialisme, eh bien, M. Philippe Clémenceau, qui est aussi un conférencier remarquable, nous parlera de colonialisme et religion, puisque vous savez qu'une des composantes idéologiques du colonialisme a été la religion, même si quelquefois c'était quand même empreint d'une grande hypocrisie. Mais c'est l'occasion de refaire un état sur cette chose-là. Histoire contemporaine, eh bien, on va attaquer l'histoire de l'Algérie. On a déjà eu un cycle sur l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire, je rappelle les dates un petit peu, 1830, la conquête de l'Algérie, pour des raisons diverses et variées. Pour faire court, ça ne s'est jamais bien passé entre la France et l'Algérie. De 1830 à 1962, il y a toujours eu des problèmes. Madame Geneviève Guérin va surtout se concentrer sur la période la plus récente, c'est-à-dire la période postérieure à la guerre de 1945. Alors ça, c'est un sujet sensible, puisqu'il y a beaucoup de gens de nos générations qui ont participé à la guerre d'Algérie, donc avec des sensibilités variées. Hein. Donc on a toujours un petit peu reculé sur l'idée d'attaquer ce sujet-là dans nos conférences, mais maintenant les années commencent à passer, et donc on peut essayer de prendre un peu de recul vis-à-vis de ces événements qui datent maintenant de plus de 60 ans. Quoi. Voilà. L'aventure de la Compagnie des Indes, donc là, par rapport au cycle de M. Vion-Delphin, donc Mme Guérin va faire un zoom appuyé sur la Compagnie des Indes française, hein, bien sûr, et donc le développement des ports sur la façade atlantique de la France, donc Bordeaux et Nantes pour l'essentiel, qui sont des produits purs jus du colonialisme français. Sinon, sans colonialisme, ce serait resté des petites villes. Autre sujet extrêmement sensible pour nos générations, c'est la période de Vichy. Alors, les conférenciers sont toujours un petit peu frileux pour aborder ce sujet-là, puisque, comme je vous l'ai dit pour la guerre d'Algérie, c'est une période qui a encore des relents dans la mémoire collective de nos générations. Alors moi je voulais surtout qu'on parle du régime de Vichy, mais Robert Kasprick m'a dit non, si, on ne peut pas comprendre le régime de Vichy si on ne fait pas un balayage de ce qui s'est passé entre les deux guerres dans la politique intérieure française, qui explique largement l'émergence de Vichy dans les circonstances que vous savez. Et comme complément à cet exposé, eh bien, j'ai demandé à un autre conférencier, qui est d'ailleurs un ami de Robert Kasprick, de nous parler de la collaboration. Sujet encore plus sensible. Et donc, Monsieur Lécuyer, c'est quelqu'un qui est très sensible aux aspects psychologiques, sociologiques, des événements historiques. Alors, encore des conférences reportées. Là, c'était plutôt la période. Kirsten. Alors, peu de gens connaissent Kirsten. On connaît la liste de Schindler, vous savez, celui qui a. Il y a un film de Steven Spielberg qui raconte cette histoire-là. C'était un Suédois qui a sauvé des milliers de Juifs des griffes nazies. Mais il y en a eu d'autres. Et en particulier ce type qui s'appelle Kirsten, qui était un médecin kinésithérapeute et qui soignait Himmler. Et grâce à des manœuvres habiles, lui aussi a sauvé des milliers de Juifs. C'était quand même le médecin du chef SS. Himmler, le chef SS. Alors pourquoi ? Himmler avait plusieurs hernies discales qui le faisait souffrir abominablement, et le seul qui le soulageait un petit peu, c'était Kirsten. Et puis, il nous parlera, mais ça, François Kersaudy. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont déjà venus, François Kersaudy, c'est un historien qui est connu, bien sûr en France, mais dans le monde entier, puisqu'il est considéré comme le meilleur spécialiste au monde de Churchill. Et en plus, il a un talent absolument extraordinaire, puisqu'il a un talent d'imitateur. C'est-à-dire que quand il parle de Churchill, il imite Churchill, aussi bien en français qu'en anglais. Et quand il parle de De Gaulle, il imite De Gaulle dans ses discours. Alors, ça fait un peu café-théâtre, mais ça met de l'ambiance pour la conférence. Voilà. Donc, venez écouter François Kersaudy, parce que ça vaut le déplacement. Une autre conférence qui a aussi été repoussée de plusieurs fois, et là c'est une tentative qu'on va faire, c'est une conférence en anglais. Donc pour les amoureux de la langue de Shakespeare, on va parler de la lutte de Martin Luther King pour les droits civils aux États-Unis. Et alors si vous n'entendez pas un mot d'anglais, vous pouvez zapper, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et la dame là parle très doucement, c'est un professeur, c'est une anglaise, mais elle parle à un rythme, disons, accessible pour des gens qui ne sont pas très à l'aise dans la langue de Shakespeare. Et je pense que pour beaucoup de monde, ça sera intéressant de voir cette expérience. Elle a été déjà donnée à Beaune, et à la grande surprise de nos collègues de Beaune, il y avait eu un bon public. On invitera bien sûr des gens de l'extérieur, et Donc, et tous ceux qui font de l'anglais, il y a déjà le groupe de conversation anglaise où il y a déjà au moins 20 personnes, et puis les gens qui font des cours d'anglais chez nous, et puis des gens qui ne font ni cours ni conversation et qui maîtrisent suffisamment la langue. Voilà. Alors, je ferai, vous voyez, Monsieur Fournier, c'est moi, hein, je vais vous faire une conférence sur deux noms. Pourquoi faire une conférence sur deux noms cette année ? Ben, tout simplement parce qu'on a prévu, et on vous en reparlera au printemps prochain, une journée de noms, consacrée uniquement de noms, dont le contenu principal, ce sera une visite en flux continu de la salle de noms du musée du même nom. Alors, vous ne le savez peut-être pas, parce que le musée de noms, jusqu'à 2010, il n'y avait pas de salle consacrée à ce personnage dans le musée de Denon. Donc il y a une dame qui était à cette époque au musée qui a dit, ben, ça ne va pas, il faut essayer de réunir dans une seule salle tout ce qui concerne Denon. Et cette salle, elle existe, elle est au deuxième étage et elle est méconnue des Chalonnais. Parce qu'il faut monter au deuxième étage. Et ce n'est pas très bien fléché, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir ce personnage à multiples facettes. Et je rappelle à nouveau que l'UTB a une convention avec la ville de Chalon et l'UTB est chargée de maintenir maintenir la mémoire de la vie et de l'œuvre de ce personnage. Alors, nous, on n'est pas, même si on s'appelle université, on n'a pas les moyens de recherche très importants, mais on peut susciter des colloques, comme ça s'est fait depuis 1997, de spécialistes qui viennent de Paris ou différentes régions pour confronter des études qu'ils ont pu faire sur le personnage. Et donc, on a un patrimoine, si vous voulez, autour de ce personnage qui est déposé dans nos archives, déposé dans nos bibliothèques. Et comme je vous le disais en introduction, c'est moi qui vous ferai la conférence sur les Saint-Simoniens, ces Saint-Simoniens qui ont fait la France. D'abord, réviser qu'est-ce que c'est que le Saint-Simonisme. C'est le nom, le duc de Saint-Simon, qui est un lointain parent du Saint-Simon de Louis XIV, du mémorialiste de la période de Louis XIV, et qui avait des idées un peu bizarres. Et il a eu des successeurs qui sont appelés les Saint-Simoniens, ça a été un feu de paille au niveau idéologique, mais il en est resté beaucoup au niveau des structures industrielles, essentiellement industrielles et bancaires de la France. Et dans la foulée, dans l'ombre du Saint-Simonisme, on a eu l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, qui était une des composantes de l'idéologie saint-simonienne. Même si c'était encore très cosmétique à l'époque. Et Monique Roux nous a proposé de parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé, c'est les Indiens d'Amérique. Alors là, c'est aussi une composante sur le colonialisme. Il y a de très beaux films qui sont passés. Je fais allusion, par exemple, à Danse avec les loups de Kevin Costner, qui évoque tout l'arrière-plan sociologique de l'invasion des Européens et qui ont chassé, pourchassé et tué beaucoup de tribus indiennes. On aura une conférence sur l'histoire locale, on n'a pas encore défini, donc sur l'histoire locale de l'hôpital, donc je pense que ce sera l'histoire de l'après-guerre. Une histoire des canaux de Bourgogne. Alors ça, Madame Jurzac, ben c'est la femme de Monsieur Jurzac, j'ai parlé tout à l'heure pour le coton, et donc elle est aussi, elle est prof de SVT, elle était prof de SVT, donc les canaux de Bourgogne, c'est un peu plus proche de son domaine de compétences. Alors, voilà un conférencier, un de nos conférenciers vedettes, Ahmed Djebbar. Et donc, M. Ahmed Djebbar, qui vient une fois par an, régulièrement, il nous est très fidèle. Il était ministre de l'Éducation nationale en Algérie, dans la période chaude du fils, donc entre 92 et 94, où on assassinait les présidents de la République à la Kalachnikov dans les réunions publiques. Donc lui, il a survécu et il nous a proposé ce sujet en disant ben, quelles sont les relations entre le monde musulman, à l'époque essentiellement représenté par le monde ottoman, et les rois de France, évidemment, j'ai mis François Ier et Soliman le Magnifique. Une autre conférence qui est reportée depuis un certain nombre d'années, j'ose même plus le dire, l'influence de l'imprimerie sur la société de la Renaissance. Alors ça, c'est une tarte à la crème des cours d'histoire au lycée ou au collège. On a quand même la chance d'avoir obtenu M. Yann Sordet. M. Yann Sordet, c'est le directeur, on va dire, de la bibliothèque Mazarine. Donc c'est le top du top de ce qui se fait en France sur ce sujet. Et en plus, il est sympa. Il n'est pas très vieux, parce qu'on avait un autre contact qui était son prédécesseur, si vous voulez, M. Frédéric Barbier, mais qui, lui, est âgé et qui est malade, et donc qui a décliné. C'est lui qui nous a introduit auprès de M. Yann Sordet. Une conférence rigolote sur l'histoire des religions. Quand Dieu était une femme, ou les religions et les femmes. Alors, la photo peut vous paraître bizarre. Où cette photo a-t-elle été prise, à votre avis ? En Angleterre, vous avez gagné. Donc je rappelle que dans la religion anglicane, il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis des prêtres féminins. Hein. Donc il y a des prêtres et des évêques féminins. Et là, vous voyez le... le prêtre officiant, donc c'est une femme. Et encore une conférence cette année, alors ça c'est aussi des résidus des années passées. Je vais vous parler d'une personne que vous ne connaissez pas, mais que je connais bien, Konstantin Edwardovich Tiotskovski. À ce monsieur, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez sa photo, là, quelques années avant sa mort, donc il est triste comme un jour sans fin. C'est un petit instituteur en collège au milieu de la taïga, complètement isolé de tout le monde académique. Et ce petit monsieur, qui était isolé de tout, il a inventé l'équation qui régit le mouvement des fusées dans l'espace. Tout seul comme un grand. Et aujourd'hui, les plus grands, si vous posiez la question à ceux qui s'occupent de fusées en ce moment, c'est-à-dire M. Elon Musk et M. Bezos, là, qui font des balades dans l'espace, ils diraient, mais quel est le père de votre science ? C'est ce monsieur-là. Von Braun avait un exemplaire de son ouvrage, d'un de ses ouvrages sur les fusées, complètement noté de sa main. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que on a trouvé, par un heureux hasard, une version française dans une vente à l'étalage de ce qu'on appelle le Chemin des étoiles, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction à caractère un petit peu pédagogique, ont été écrites dans les années 1900-1920, hein, et qui sont délicieuses. C'est du Jules Verne à la mode russe, quoi, on va dire, mais très très juste du point de vue scientifique. Et nous allons éditer ces nouvelles. Et pourquoi cette conférence ? Ben, tout simplement pour annoncer la sortie de cet ouvrage qui est pratiquement prêt. Sauf que, comme vous avez pu vous en rendre compte ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'événements sur les fusées depuis un an, on va dire, les relations avec la station internationale, les sauts de puce de M. Jeff Bezos et autres amuseries. Donc la partie, il y a des annexes qui évoquent la prospective actuelle. Je vais être obligé de la réécrire largement. Donc j'annoncerai. C'est pour ça que je veux vous faire connaître un petit peu ce personnage. Et évidemment, dans cet ouvrage, il y a une annexe assez longue d'une trentaine de pages qui résume la vie de ce personnage. Littérature, on va changer un petit peu de... Alors, on va parler de la bande dessinée. D'où elle vient et tout. Alors, évidemment, j'ai demandé ça à Michel Bonnet. Beaucoup d'entre vous le connaissent certainement. Il est très connu dans le milieu chalonnais et c'est sa grande passion. Il a tellement de passion, mais enfin, c'est parmi toutes ses passions, c'est sa passion de référence. Et donc il va nous parler de ça. Il nous a fait au moins 5 ou 6 conférences sur des auteurs particuliers de bande dessinée. On va parler de Machiavel et de Montaigne. Ce sont également 2 conférences qu'on a reportées plusieurs fois de suite aux événements. Et cette année, on ne peut pas échapper à Pontus de Tiare. Tout simplement parce que c'est encore un anniversaire, et c'est l'année Pontus de Tiare, donc Bissy sur Flay. Hein. Alors, Stéphane Lecouédic, qui est notre conférencier sur l'histoire de la littérature, on va dire, et comme je l'évoquais tout à fait au début, comme on a le thème des ressorts psychologiques et sociologiques de la colonisation, est-ce qu'il y a un reflet de ces thèmes-là dans la littérature? Et ben, la réponse est évidemment oui. Et donc, on va rebalayer depuis Montesquieu jusqu'à la période actuelle, quels sont jusqu'à Albert Camus, si vous voulez, quels sont les ouvrages tout à fait symbolique ou iconique de cette thématique dans la littérature. Alors là, le Code Noir, c'est pas vraiment de la littérature. Vous savez que c'était un code juridique qui disait que les Noirs, ben, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français dits de souche. Hein. Voilà, qui était le reflet de l'idée qu'on se faisait de ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Voilà. On va parler de Dostoïevski. Donc, c'est un conférencier parisien là, qui nous a fait plusieurs conférences sur la Russie. Évidemment, Dostoïevski, ça s'impose. Catherine Westman va nous parler de Catherine Pozzi. Alors, je vous avoue très franchement, avant qu'elle m'ait expliqué qui était Catherine Pozzi, j'ignorais son existence. Donc venez écouter. Pour ça. En fait, c'était la maîtresse de Paul Valéry. Donc, hélas, encore à cette époque-là, les gens n'existaient que par le nom de leur compagnon. Hein, voilà. Donc, le nom de Paul Valéry, tout le monde connaît. Catherine Pozzi, à titre personnel, j'avais jamais entendu ce nom-là. Voilà. Alors, je fais un petit arrêt sur cette conférence qui est aussi reportée depuis plusieurs années. Pierre et Marie Curie, approche intime du couple. Alors, ça n'est pas une conférence scientifique. C'est une conférence de littérature. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que Pierre Curie est mort en 1906, écrasé par une voiture, et il s'est marié, alors je dis ça de mémoire, c'est en 1892 ou 94, dans ces eaux-là. Donc la vie du couple, elle a duré une dizaine d'années ou une douzaine d'années. Ils ont eu 2 enfants, hein. Donc là, vous voyez celui, donc Pierre Curie, Marie Curie. Donc ça, c'est la fille aînée, Irène, hein. Et là, c'est le père de Pierre Curie, qui, quand il est mort, ben, a continué à s'occuper de sa petite fille. Donc il était très paternel. Voilà. Et donc, on a accès à la correspondance privée qui a été publiée entre Pierre et Marie Curie pendant toute cette période. Et ce que Catherine Weissmann nous propose, c'est une analyse de cette vie de couple qui parle essentiellement de leur relation, mais également de science. Donc il n'y aura pas de commentaires sur la science, mais c'est intéressant de voir le mélange entre le ressenti, disons, émotif de la vie de couple et la vie scientifique du couple. Je rappelle qu'on a au moins 4 ou 5 conférences dans le passé sur l'œuvre scientifique de Marie Curie en particulier. Vous pourrez vous y reporter. Françoise Rasselbleu va nous parler, avec Catherine Weissmann, d'André Breton, donc une figure tutélaire du surréalisme en littérature. Sujet bateau, qu'on n'a jamais abordé, mais enfin, ça tombe bien, c'est en situation. Les Français et l'impôt, histoire d'un face-à-face tumultueux, c'est vieux comme l'existence de l'impôt. Hein. Et donc, ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc, ce n'est pas inutile de replacer tout ça sur un temps long. Un petit stop sur cette conférence. C'est quelqu'un que je connais, André Genot, qui habite pas très loin de chez moi, là, qui nous avait proposé de faire une conférence sur le métier de soldat aujourd'hui. Ça nous a paru intéressant, tout simplement parce que nous ne connaissons pas le métier du soldat d'aujourd'hui. Je rappelle que Jacques Chirac a décrété l'armée de métier autour des années 2000, etc. Donc ça a été la conscription a cessé dans l'armée française depuis la Révolution. Donc l'armée n'est plus un grand corps volumineux. Il y a 200 ou 250 000 soldats. Il y a eu jusqu'à plusieurs millions de soldats dans les périodes de guerre. Donc l'importance sociologique de l'armée a beaucoup évolué. Alors, on parlera, je pense, de ça, mais on parlera surtout de la technicité de la guerre, maintenant, qui est devenue d'une complexité telle que ça peut poser des questions sur les évolutions du métier de soldat. Voilà. Et donc là, il est général, donc c'est un spécialiste, donc on lui fait confiance. Notre ami Claude Yonnet, qui était il y a quelques années le président de l'UTB de Beaune, nous a proposé ce sujet-là, puisque depuis plusieurs années, il nous fait des conférences sur les voyages en général, les moyens de voyager, les bateaux, les avions, les choses comme ça. Et donc, il nous propose Thomas Cook, vous connaissez tous ce nom, c'est l'inventeur des agences de voyage au milieu du 19e siècle. Alors, une fois de plus, on connaît très mal l'histoire des agences de voyage. Pourquoi on a inventé des agences de voyage? Alors, comme toujours, ce sont les Anglais qui inventent ça. Hein. Je rappelle que cette société n'existe plus, elle est en faillite il y a quelques années. Les mouvements sociaux, sans commentaire, on va parler du jaune et du bleu, blanc, rouge. Donc là, c'est un sociologue qui nous fera cette... Et je pense que c'est pas mal parce que, si vous voulez, on a quand même du recul par rapport à l'événement. Donc c'est bien d'en parler d'une façon un peu moins passionnée, puisque le sujet est quand même chaud. L'iconographie coloniale. Comment regarder autrement les images coloniales dans cette période postcoloniale? Aujourd'hui, les Yabon Banania, sans parler de ce que je vous montre ici, ça passe plus. Et à l'époque, ça passait très bien. Donc c'est pour essayer de comprendre l'évolution des mentalités et des mœurs. Donc ça c'est plutôt une question enfin, entre l'histoire de l'art et question de société. Une conférence de psychologie, travaux sur les peurs, donc Patrick Bonin nous visite depuis déjà quelques années. La philosophie, alors on a notre philosophe qui est là, hein, Michel Le Pilouer, et donc là il y a eu des perturbations en série sur les reprogrammations et choses comme ça, et c'est toujours un petit peu compliqué parce que on essaye de conserver une certaine continuité dans l'évolution des idées. Donc quelquefois on est obligé de faire un petit peu des allers-retours au point de vue historique. Donc je vous laisse lire les titres là: idéalisme allemand, critique sur la faculté de juger, il y a une faute d'orthographe là, la faculté de juger, critique de la raison pratique et la philosophie de Marx, philosophie athée on va dire, voilà. Parce que Marx, il a tout fait, et de la philosophie aussi. Hein. Donc, quelquefois, on oublie ça. Encore une conférence de philosophie, plutôt d'analyse philosophique. Peut-on tout dire ? Alors, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire le petit dessin que j'ai mis là. Faut-il dire la vérité aux imbéciles ? Alors, je veux savoir, dans le fauteuil, et le docteur lui dit, vous êtes très con. Donc, faut-il lui dire ça ? Voilà. Une autre tarte à la crème, la compétitivité de l'industrie française. Donc, on a un spécialiste, c'est un économiste qui est enseignant en Bourgogne-Franche-Comté, qui est un très bon conférencier, et on va essayer de faire la synthèse des connaissances actuelles, puisque c'est un sujet qui est très polémique. Et vous savez très bien que depuis au moins une vingtaine d'années, pour ne pas dire 50, l'industrie en France a périclité pour des tas de raisons, et ce sera analysé au cours de cette conférence. La gouvernance maritime en France. Alors, je rappelle que M. Jean-Louis Fillon, il n'a pas de parenté avec celui que vous connaissez. Hein. C'est un militaire et qui nous a fait une conférence très intéressante il y a 2 ans sur l'extension du domaine maritime littoral. Hein. Donc, le droit de la mer, qui est d'une complexité absolument effarante. Et actuellement, il y a une pression internationale pour que les eaux enfin territoriales, nationales, s'étendent au large. Et donc là, ces zones se recouvrent, et donc c'est des sources de conflits géopolitiques entre des États voisins. On l'a partout. Hein. Alors, la France a un cas particulier, c'est le pays qui au monde a la plus grande extension géographique maritime, tout simplement parce qu'on a des territoires d'outre-mer pratiquement partout sur la planète. Alors, tout ce que vous voyez en bleu, eh bien, c'est des choses qui concernent un petit peu la France. En droit, je ne pouvais pas échapper, alors ça c'est moi qui l'ai demandé à Madame Hélène Tourard, parlez-nous de l'OMS, parce que l'OMS, elle a été habillée pour l'hiver depuis qu'on a la Covid, hein. En disant qu'ils sont nuls, ils nous racontent n'importe quoi, ça change d'avis toutes les 5 minutes, etc., etc. Mais comment donc ça marche, cette OMS ? Alors, évidemment, personne ne le sait, puisqu'on ne s'est pas enseigné, donc elle va nous expliquer. Voilà. Avantages et inconvénients. Une autre conférence de droit, eh bien, encore une fois, une conférence qui a été reportée par Madame Bonamy, qui est professeure de droit à Besançon. Et je lui avais demandé de faire l'histoire des constitutions 4e et 5e République, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé de 45 à maintenant. Alors, la 5e République, en général, tous ceux qui sont dans la salle, on connaît bien l'histoire. Je ne suis pas persuadé qu'on sache très bien qu'est-ce qui s'est passé de 45, 46, 47 et jusqu'à 58. Et c'est pas inutile de rappeler tout ça pour expliquer pourquoi il y a eu la Constitution de 1958. Voilà. Géographie et géopolitique. Alors là, merci la Covid, comme tout s'est décalé, le sujet vient à pic par rapport à l'actualité. On n'entend plus parler que de ça dans les journaux, les attaques informatiques, qui sur les pipelines aux États-Unis, qui sur la ville de Chalon et le Grand Chalon, etc., etc. Et ça ne fait que commencer. Donc c'est le nouvel instrument d'agression entre les États, et donc c'est pas inutile de parler de tout ça. En géopolitique, on va parler des Émirats arabes unis, qui ne sont pas le Qatar. Le Qatar, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup du Qatar en ce moment avec le foot, mais les Émirats arabes unis qui sont là, et donc ceux-là, ils s'aiment pas. Hein, voilà. Donc c'est M. Michaud qui va nous parler de ça. J'espère qu'il va revenir, parce qu'il était en mission en Nouvelle-Calédonie en ce moment, et c'est un peu coincé en Nouvelle-Calédonie. Eva Greenanval va nous parler de l'art du camouflage dans la biosphère, donc le mimétisme, voilà. Et c'est une conférence qui se passera dans le cadre de la fête de la science. Les conférences d'astronomie, la vie dans l'univers et voyage dans le temps, pour nous expliquer pourquoi on ne peut pas faire de voyage dans le temps. Le terroir viticole, aussi une conférence qui a été reportée à de nombreuses reprises par M. Bourque, qui travaille à l'INRA, et c'est vraiment son domaine de spécialité, et je pense que ça tombe très bien. Vous savez que cette année, on annonce que la récolte, c'est la plus mauvaise des 150 dernières années en France, à cause du gel, des intempéries et des choses comme ça, et le réchauffement climatique, d'après ce qu'on lit dans les gazettes, il aura, en dehors des épisodes catastrophiques, il aura une influence sur l'évolution de la culture du viticole. Vous savez que dans la période romaine, il y avait des vignes jusqu'à Londres. Hein. Donc c'était un optimum climatique, la période romaine. Donc là, peut-être qu'on fera du champagne dans la banlieue de Londres, et puis qu'on fera des rosés de province en champagne, peut-être, je ne sais pas, avant qu'on ait tous grillé. Hein. Théorie synthétique de l'évolution, sommes-nous encore capables d'évoluer? Donc voilà, c'est M. Lecointre. M. Lecointre, c'est une pointure du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et on est très heureux qu'il ait accepté notre invitation, parce que c'est des personnages qui sont très sollicités pour faire des conférences ici ou là. On va parler du CRISPR-Cas9. Vous savez tous ce que c'est? Non. C'est ce qu'on appelle le ciseau moléculaire, c'est-à-dire aujourd'hui on est capable, dans certaines limites, de découper le génome en petits morceaux, et puis d'en enlever un morceau et d'en remettre un autre à la place qui va mieux. Ça s'appelle les OGM. Hein, et je vais faire un peu de provocation. Les vaccins anti-Covid à ARN messager, c'est pas des OGM, mais techniquement il y a quand même des... c'est pas des OGM, non, parce qu'on n'attaque pas l'ADN, si vous voulez, mais disons, hein, oui, il n'a rien à voir, mais je dirais le fait de dire on édite un petit peu l'ARN messager, bon, c'est intéressant. Parce que là, ce que l'on voit, c'est la double hélice de l'ADN, c'est pas l'ARN. Mais bon. Mon ami Thierry Malvézy, qui maintenant est responsable du musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu parce que bon, il y avait eu des problèmes de disponibilité puis de distance, parce que Neuchâtel, c'est quand même pas la porte à côté. Et donc, il a accepté de revenir pour nous parler quoi de neuf en paléontologie humaine. Alors, je ne sais pas si vous suivez ces sujets d'une façon attentive. Manifestement, plus on avance, plus on découvre des branches plus ou moins inconnues de l'évolution humaine dans la période, on va dire, de quelques centaines de milliers d'années à aujourd'hui. Donc on invente l'homme de ceci, l'homme de cela, et on a du mal à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Donc c'est pas inutile d'avoir un exposé de synthèse pour voir quelle est l'actualité dans ce domaine-là. Voilà. Climat et atmosphère, même combat. Donc, Madame Bardès, elle était la collègue de Monsieur Valeur, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui était chimiste, qui va nous parler de la musique et de la couleur. Et là, elle va nous resituer un petit peu toute cette histoire de compréhension du phénomène du réchauffement climatique, qui est extrêmement complexe et qui fait l'objet encore de travaux, le fameux GIEC dont on parle beaucoup, qui est un organisme onusien qui synthétise l'ensemble des travaux scientifiques qui sont faits sur le sujet. Et en ce moment, ben, on en parle un peu dans les journaux et les conclusions sont assez alarmistes, c'est-à-dire que la vitesse du réchauffement climatique est plus rapide que celle qui avait été anticipée il y a seulement quelques dizaines d'années. Et dans cette histoire de réchauffement climatique, ben l'eau, comment elle évolue? Alors, je rappelle que dans l'atmosphère, sur Terre, rien ne se perd, rien ne se crée, hein, à part vraiment des gaz volatiles qui peuvent aller dans l'espace profond, mais c'est des gaz légers. Pour le reste, la quantité d'eau qu'il y a sur la Terre, elle sera toujours la même. Par contre, elle ne sera pas au même endroit suivant les conditions de pression, température, etc., etc. Donc, avec le réchauffement climatique, comment tout ça, ça bouge et comment on peut essayer de l'anticiper. Ce qu'on dit, il n'y aura plus d'eau. Si, il y a toujours de l'eau, mais elle n'est pas à l'endroit où on voulait qu'elle soit. C'est ça le problème. Hein, voilà. Les cancers de la peau. Alors, là, cette conférence se fera en visioconférence. Elles ne viendront pas parce qu'elles habitent à 250 lits. Ces deux jumelles qui sont bardées de diplômes, docteurs en génétique, spécialisées en conseil oncogénétique. Elles habitent à 250 km l'une de l'autre et à 250 km de Chalon. Donc, ils ont dit, et elles travaillent, évidemment. Elles ont 45 ans. C'est compliqué, donc on va faire ça en visioconférence. Mais on fera un bel enregistrement qu'on vous mettra à disposition. Et enfin, donc le professeur Bersch, qui est venu l'année dernière, mais en visioconférence, qui nous parlait du Covid. Donc j'espère que vous l'avez écouté, on le voit souvent à la télé, hein. Donc, parce que le sujet qui était prévu, c'était celui-là, la résistance aux antibiotiques. Il a dit, mais c'est idiot que je vous fasse ça, parce qu'il y a quand même une actualité qui est quand même plus chaude, donc je vous propose de faire une conférence sur le Covid. Ben, on a dit, bien monsieur, pas de problème, faites donc. Et c'était très bien. Donc il a fait une synthèse. Je fais juste deux commentaires sur ce qu'il a dit, je ne sais pas si vous l'avez regardé. À deux reprises, il a dit, en juillet 2020, il fait partie du comité, d'un des nouveaux comités scientifiques qui conseille le gouvernement. Il a dit, comme beaucoup d'autres, il a dit les vaccins ARN messager, parce qu'on savait que ça pouvait être envisagé, on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Ça fait 10 ans qu'on essaye, on n'y arrivera pas. Donc on n'y croit pas. Donc on va miser surtout Enfin, on met une petite mise sur les vaccins à ARN messager, mais on met des grosses mises sur les vaccins traditionnels, c'est-à-dire à virus atténué. Quand au mois de novembre-décembre, Moderna et Pfizer ont annoncé qu'ils avaient fait leur vaccin et que les autorités sanitaires l'avaient accepté déjà aux États-Unis puis ensuite en Europe, il a dit j'étais stupéfait. Et quelques mois après, il y a eu des résultats qui sont tombés sur le taux d'efficacité de ces vaccins, qui était de 80-90%, enfin je ne veux pas. J'en suis tombé à la renverse. Je n'y croyais toujours pas, enfin au sens psychologique du terme. J'y crois parce que il y a eu des études de fait, mais ça me bluffe. Et donc ça veut dire que lui fait partie, et par contre à la fin il a dit les fameux scientifiques qu'on a cités, les deux Turcs et la Hongroise là, qui ont été à l'origine de ces découvertes scientifiques, ils ont dit, elles méritent, tous les trois méritent le prix Nobel à la fin de 2021. Donc je bats ma coulpe et en disant bien que je n'y ai pas cru au départ, je suis obligé de constater que c'est une révolution. Évidemment, comme ça ne s'était jamais fait, on a toujours un petit peu une réticence en disant beaucoup de gens qui sont contre les vaccins disent oui, mais d'habitude il faut 10 ans, là on fait un truc en 9 mois, c'est louche. Mais parce qu'on ne rentre pas dans le cœur du sujet, au point de vue scientifique. Bon. Ça, c'est un commentaire incident, mais résistance aux antimicrobiens, vous la connaissez bien, les maladies nosocomiales, vous allez à l'hôpital, vous demandez quelquefois si c'est pas plus risqué d'aller à l'hôpital que de rester chez vous. Parce que on est dans un environnement qui, malgré tous les gestes barrières possibles et imaginables, est infecté de bactéries, de choses comme ça, et vous finissez par prendre quelque chose par quelque moyen que ce soit. Et on s'aperçoit, hélas, que les antibiotiques classiques sont de moins en moins efficaces, tout simplement par l'effet de l'évolution, puisque les souches qui sont tués par les antibiotiques, elles disparaissent, et puis les variants qui ne sont pas tués par les antibiotiques restent, et donc il faut sans arrêt retrouver des nouvelles molécules pour lutter contre les germes. Donc il va nous parler de tout ça dans le détail. Votre souffrance va bientôt se terminer. Monsieur Serge Luneau nous a proposé un sujet original, la police scientifique. On en parle souvent à la télé, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on voit des gens en blouse blanche qui font des papouilles, des machins, ils ont des appareils, à part l'ADN, les analyses ADN, dont on n'explique jamais comment c'est fait, tout le monde s'en fiche. Pour le reste, il y a beaucoup d'autres techniques qui sont utilisées dans la police scientifique. Donc c'est pas inintéressant d'avoir un balayage sur toutes ces choses-là. Et enfin, la technologie, pareil, la R&D/EDF, parce que vous savez, aujourd'hui on dit il y a le réchauffement climatique, il y a la transition énergétique. Donc on va favoriser l'utilisation de l'électricité le plus possible non carboné pour avoir qui le chauffage, qui éventuellement le transport, en passant par tout un tas d'intermédiaires. Donc les gens d'EDF, depuis des décennies, se préoccupent de ces sujets-là. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un de l'intérieur du système qui nous explique quelles sont les idées d'EDF sur ce sujet-là. Et enfin, on va faire des animations. Donc, on avait prévu de refaire l'histoire des globes qu'on a faite il y a 6 ou 7 ans. Je vous évoquais tout à l'heure les événements politiques dans les années 30 en France pour essayer de comprendre pourquoi l'émergence du péténisme, hein, du régime de Vichy. Un point très important de ces événements, c'est l'importance de la presse d'opinion dans cette période-là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, la radio était encore relativement embryonnaire, mais le seul média qui était dominant dans le média politique, c'était la presse, et qui était très puissante à l'époque, avec qui était très clivante. Donc c'est pas inutile de ressortir tous ces journaux des placards, et donc il y a une bonne collection à la bibliothèque municipale, et le conférencier, M. Lécuyer, qui va parler de ce sujet-là, c'est pas Lécuyer, c'est Caspric qui va faire ça, sera là pour commenter un petit peu des extraits de la presse quotidienne dans les années 30 en France. Voilà. Voilà le programme de la saison qui vient. Donc je pense qu'il est très intéressant, comme toujours, évidemment. Vous voyez la diversité des sujets tout en essayant de garder des thèmes en commun entre plusieurs conférenciers. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Non, mais je vais en parler, je vais en parler. Pas de questions? Disons, Michel Lepilouer m'a demandé de faire un petit exposé. J'apporte la lumière. À la fin de la saison précédente, là c'était au mois de juin, donc ça commençait à se déconfiner, et on a mis en place... Ah ben, faut pas m'en importer un deuxième, là. Sinon j'en vais... Oui, bon. Oui, non, mais bon, on va faire court. Hein, ouais. On le tapera, puis on le mettra sur le site, ça. On a fait un système qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire conférence-débat, c'est-à-dire de faire deux mini-conférences de l'ordre d'une petite heure, avec une récréation et échange de questions, et une conclusion. On ne savait pas si ça allait fonctionner. Alors là, les sujets, c'était Wittgenstein. Wittgenstein, c'est un philosophe autrichien de l'entre-deux-guerres, on va dire, hein, de formation scientifique, c'est un ingénieur, hein, mais qui s'est intéressé un peu à la philosophie, pour finir par dire qu'il ne savait pas trop qu'en dire au niveau métaphysique. Moi, je vais lire votre texte, là. Et puis un autre qui s'appelle, que tout le monde connaît, qui est M. Einstein. Mais M. Einstein, indirectement, à travers toutes ses œuvres et toutes ses déclarations, on peut dire d'une certaine manière qu'il a fait de la philosophie aussi, puisqu'il a abordé des sujets aussi comme la métaphysique et des choses comme ça. Et donc l'idée de cette conférence double, c'était d'opposer un petit peu les deux points de vue. On était une vingtaine de personnes, et dans ce format d'une vingtaine de personnes, on a fait ça à Jean Zay, ça a pas mal marché, parce que il y a eu beaucoup d'interventions. Tout le problème des conférences débats, c'est que s'il y a beaucoup de monde, ça marche pas, parce que individuellement les gens sont timides et n'osent pas lever la main en disant je vais poser une question idiote. Hein, donc le fait que vous la posiez, par définition, elle n'est pas idiote. Vous avez fait l'effort de poser la question. Mais quand on est dans un format plus réduit, et des gens qui sont vraiment très intéressés par le sujet, là, on s'est rendu compte que ça avait fonctionné et que les gens avaient réagi. Hein. Alors, comment ? Oui, c'est le risque de l'exercice, mais enfin bon, on accepte. Alors, donc on saisira, parce que là, la philosophie s'y prête mieux, mais on saisira des opportunités éventuelles. On a fait ça plusieurs fois dans le passé, mais pas tellement sous forme de conférences et discussions après, c'était plutôt tout de suite des débats. Et là, les débats, c'est pas facile, parce que quand on connaît mal le sujet, eh bien, le public devient très vite silencieux. Et donc ça tourne un peu en rond et on sait pas, on se regarde dans le blanc des yeux et ça fonctionne pas. Ça ne s'amorce pas. Alors là, j'avais trouvé une petite formule personnelle que j'ai dite pendant la récréation. Hein. On va opposer l'ingénieur dépressif, c'est Wittgenstein, au scientifique imaginatif, qui est monsieur Einstein. Parce que Einstein, non seulement c'était un scientifique, mais il avait, c'est sa force d'ailleurs, il avait beaucoup d'imagination. Alors, je vais vous lire un petit résumé. Donc, Michel Le Peuillard a dit, ben oui, mais on est parti là comme des voleurs, et on n'a pas vraiment fait la conclusion de la conférence. D'abord parce qu'on était limité par le temps, puis il fallait plier tout l'équipement. Donc, je lis le texte de Michel Le Peuillard. On peut reconnaître à Wittgenstein le mérite d'avoir critiqué le scientisme. Alors, le scientisme, c'est facile à comprendre, c'est de dire la science domine tout, hein, et n'explique tout, et est le moteur du comportement humain. Comme toutes les autres métaphysiques, en montrant que c'est aussi du domaine de la philosophie et non une série d'énoncés scientifiques, la preuve, c'est l'absence d'énoncés mathématiques dans la formulation du scientisme. Évidemment, le scientisme, c'est une philosophie. C'est pas de la science, par définition. Mais j'en reparlerai avec les Saint-Simoniens et avec Auguste Comte, évidemment, puisque lui, c'était un peu un précurseur du système. Les Saint-Simoniens étaient des scientistes. Hein, ça, c'est clair. De même, on voit bien dans toute son œuvre qu'il s'est soucié des grandes questions métaphysiques et religieuses, même s'il a pensé qu'il n'y pouvait pas apporter de réponse certaine. Donc la métaphysique, c'est important, mais je n'arrive pas à vous faire des propositions. Si je résume la thèse de Wittgenstein. Hein. Mais alors, peut-il échapper aux reproches de scepticisme ? Évidemment, si tout le monde fuit le problème, ben, je suis sceptique et je crois à rien. Hein, voilà, hein. voire de négliger le rôle de la métaphysique et de la religion dans la naissance des révolutions scientifiques du XVIIe au XXe siècle. Donc ça, c'est la thèse de Coiré. Hein, Coiré qui a dit c'est la religion qui a été un soubassement. Kojève, pas Coiré, mais Kojève, oui, je les confonds toujours tous les deux. De plus, si les réponses métaphysiques et religieuses ne sont que jeu de langage, la philosophie ne s'est-elle pas elle aussi, ne l'est-elle pas elle aussi, hein? Car, comme le montre Berkeley dans La Siris, son dernier ouvrage, et Alexandre Coiré dans ses études de la pensée scientifique, qui dit empirisme, dit nominalisme, c'est-à-dire tout n'est que jeu de langage. Alors que nécessairement scepticisme, et en effet, nos sens ne pourront jamais produire autre chose que des concepts ne correspondant qu'à des mots, mais jamais à la réalité. La science n'est qu'une langue bien faite, dira l'empiriste Condillac. Voilà, donc ça c'est un débat inusable, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Mais aujourd'hui, je pense, enfin, il faudra qu'on en reparle quand je viendrai vous faire la conférence sur les Saint-Simoniens. Parce que c'est difficile de trouver, au point de vue idéologique, des gens qui soient moins scientistes qu'eux. Hein. Alors, ils ont mis du badigeon religieux sur du scientisme. On va pour faire court, et en disant notre religion est si bonne que tout le monde l'adoptera. Bon, ça fait pchit très rapidement, mais il en est resté quelques réalisations que je vais en citer quelques-unes. Les chemins de fer, c'est pas les Saint-Simoniens qui ont inventé le chemin de fer, mais c'est eux qui l'ont mis en œuvre. Les chemins de fer, la machine à vapeur. Le canal de Suez, le canal de Parma, la tour Eiffel, les banques de dépôt, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la BNP, le Crédit Mutuel, tous des Saint-Simoniens, sans aucune exception, qui avaient renié l'appartenance à l'église saint-simonienne. Voilà.
Et que ça serait sur Freud, Arlène, donc, oui. Qui avait travaillé sur Freud, et moi, on pourrait dire
D'accord. Ben on va proposer quelque chose dans le programme. Donc conférence contradictoire, on va dire, dans le programme. Mais l'idée, c'est de trouver un créneau dans le calendrier qui permet d'avoir une assistance correcte, quoi, si vous voulez. Oui, oui, voilà. L'expérience montre, quand on essaye de faire des choses comme ça en plein hiver, les gens sont un peu réticents à sortir, voilà. Donc, au printemps, voilà. Bien, ben, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis, pour ceux qui sont éventuellement nouveaux à l'UTB, ben, on vous accueille avec grand plaisir. Donc, vous découvrez la salle de conférence de référence qui est la Maison des syndicats. Et vous avez vu, alors là vous n'avez pas vu, mais donc on a mis en place un petit système qui fait que quand on va présenter la carte d'adhérent devant le contrôle de la carte, eh bien s'il n'y a pas de passe sanitaire, sous réserve que vous ayez donné vos informations, eh bien il y aura une alerte en disant il n'y a pas de passe sanitaire. Donc ce qui est clair, au moins jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire si on n'a pas de passe sanitaire, soit sur la carte, soit le vrai passe sanitaire, sur votre téléphone ou sur un papier, eh bien, vous n'entrez pas dans la salle. Vous n'entrez pas dans la salle, ça c'est clair. Donc, la logique du pass sanitaire, c'est pas de passe droit. Il faut que ça soit fiable à 100%. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, le 21 mardi, dans deux semaines, c'est Michel Beaumont qui est à l'accueil là-bas, qui animera donc les présentations des différents ateliers. Donc les différents responsables se présenteront les uns derrière les autres, et en cinq minutes vous raconteront rapidement ce qui est qu'est-ce qu'on fait dans tel ou tel atelier. Je signale simplement, pour que vous commenciez à y réfléchir, il y a un nouvel atelier qui nous a été proposé par Catherine Westman sur grammaire et latin. Mais pas, grammaire, pas forcément avec du latin, mais éventuellement en basculant sur le latin. Il faut avoir fait du latin avant. Donc, pour comprendre la mécanique intellectuelle de la construction des phrases, de la construction de la langue. Et donc, on a déjà des clients pour ce nouvel atelier. C'est un atelier gratuit, mais par contre, il faut se manifester. Donc, elle viendra le 21, hein. Et elle vous expliquera ça beaucoup mieux que je ne peux le faire, bien que j'ai assisté à sa présentation devant un groupe de personnes qui étaient potentiellement intéressées. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.